4, le fou du roi, Stéphane Bern et son équipe.
Le fou du roi.
Bienvenue chez les bouffons, ils peuvent tenir, ils peuvent mandrailler, trier, didi, moquer, regardez, tout et tout ça en parfaite impunité avec nous ce matin, Guy Carlier.
Bravo. Bonjour.
Willy. Bonjour. Didier Porte. Isabelle Giordano. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Wow. Attendez, faut dire. Elle est plus belle qu'avant l'été. Elle est magnifique.
Plus vieille qu'avant l'été.
Elle éblouit ce studio avec nous. Bruno Mazur et François Reynard. Alors, dans l'émission, nous recevrons tout à l'heure Élodie Navarre et Arthur Jugnot. Pour le film Avant qu'il ne soit trop tard de Laurent Dussault qui sort cette semaine, nous retrouverons la chronique Tendance du mercredi de Gilles Tessier, et puis on peut saluer Franck Gélibert à son piano.
Bravo.
On sait très peu de choses de lui en dehors de ses romans, si ce n'est que ce jeune quadra est l'homme le plus détesté de Paris pour les branchés qui n'ont pas goûté sa charge contre Pierre Boulez, même si ça remonte à 10 ans.
Et les dans le qui aiment Pierre Boulez sont rares.
Non mais on parlera du Requiem. On parlera de son Requiem tout à l'heure. Et dans le même temps, considéré comme l'une des grandes plumes de notre littérature par Milan Kundera, qui rend hommage au prix Médicis 2001. Dans sa bio, on apprend en vrac qu'il est l'arrière-petit-fils de René Coty, qu'il a une passion pour les vaches, qu'il aime la ville de New York, l'opérette, les dessins de Sampé, qu'il ne supporte pas le conformisme des communautés, qu'il raille d'ailleurs dans tous ses livres, et qu'il a jeté son téléphone portable. Chantre de l'opérette, la vraie vedette d'Étonnez-moi Benoît sur France Musique nous invite à plonger dans l'univers carcéral qui est devenu l'espace non-fumeur. Il revendique le droit d'en griller une dans son roman La petite... Je parle de la cigarette, parce que La petite fille et la cigarette, c'est publié chez Fayard, avec nous Benoît Dutertre.
C'est bien. Benoît Dutertre réclame le droit de griller les petites filles. Oui.
Non, parce que il y a dans le roman évidemment de Benoît, il y a une histoire terrible où ce pauvre quadra
il faut pas le dire.
On ne peut rien dire.
On peut dire le début.
Il fume une cigarette.
Dans le roman de Benoît, mais ça fait 20 ans qu'on se connaît, 20 ans qu'on s'engueule, donc j'aime pas les. Je trouve qu'il est trop critique, enfin, il est trop pessimiste sur la société. Je pense pas que la société est aussi puritaine, etc., qu'il le croit. Mais il y a un truc qui est extraordinaire chez lui, c'est sa qualité de scénariste. C'est-à-dire que il part d'une pointe d'épingle dans le roman. C'est un truc extraordinaire. Il y a dans une société du futur, c'est ça, dans une France il y a 20 ans, dans 20 ans, il y a un type qui est condamné à mort et il demande.
Il demande une dernière volonté de
fumer une cigarette, et le directeur de la prison est concerné parce que la prison est non fumeur. Voilà. Et il commence de ça, et c'est bon, voilà, et il part de ce truc-là, et il y a tout. Moi, je voudrais qu'on ne raconte rien. Enfin, je sais pas ce que vous pensez, parce que sinon.
Là, il y a un vrai débat, parce que ce qui est intéressant, il y a des scènes extraordinaires, quoi. Je pense que ce serait bien que ça doit être très frustrant pour les auditeurs.
Oui, mais ils ont
écrit
le livre.
C'est un bouquin très perturbant et très attachant.
Alors, les uns les autres. Vous avez aimé, visiblement.
J'ai adoré ça.
Moi aussi, j'ai beaucoup
aimé. La petite fille, la cigarette.
C'est vrai qu'on est très surpris parce que le début ne correspond pas du tout à l'arrivée.
Attendez, je peux d'abord dire que quand j'ai vu la jaquette, j'ai dit, oh là, franchement, elle est assez laide.
C'est un dessin humoristique.
Moi, j'aime pas du tout. Le titre, ça fait bizarre.
Et qu'est-ce que vous aimez alors?
Le livre.
D'accord.
Le papier, quand je dis le livre. Non, mais ce qui est écrit. C'est vraiment très original, très intéressant et, comme dit Bruno, très dérangeant. Oui. Vraiment très dérangeant.
Vous l'avez trouvé dérangeant,
notamment
Bruno.
Qu'effectivement, le début ne correspond pas du tout à la fin. C'est une sorte de zigzag très bizarroïde, mais très réussi. Et on est vraiment surpris. Et en plus, il n'y a pas vraiment une happy end. Moi, j'aime bien les choses qui ne se terminent pas bien. Et pour résumer, c'est un bouquin qu'adoreront ceux qui n'aiment pas.
La petite fille se met à fumer à la fin.
C'est un bouquin qu'adoreront ceux qui n'aiment pas les gosses, ceux qui n'aiment pas les anti-tabac, ceux qui n'aiment pas les couloirs de bus et ceux qui n'aiment pas la télé-réalité.
Isabelle.
Moi, j'ai envie de dire aussi, comme Bruno, que c'est dérangeant. Moi, je suis passée par plusieurs phases dans ma lecture. Au début, effectivement, j'étais très troublée et dérangée parce qu'au même moment, je lisais la presse et je lisais, comme tout le monde, les comptes rendus du procès d'Angers avec les affaires de pédophilie. Donc, c'est vrai que quand j'ai démarré votre lecture, j'étais vraiment très mal à l'aise dans le procès que vous faites aux enfants. Et dans cette manière, même si c'est ironique, que vous dites qu'effectivement, les sales mioches, comme vous les appelez,
les
sont absolument insupportables et qu'on pourrait leur faire toutes sortes, subir toutes sortes de souffrances. Et puis ensuite, je me suis pris au jeu. Et moi, je suis d'accord pour ne pas trop dévoiler le thème du livre. Je voudrais surtout dire que moi, j'ai beaucoup ri. Je trouvais ça très drôle. Et moi, le seul adjectif que je dirais que c'est insolent. Voilà, c'est un livre très insolent, avec tout ce que ça peut avoir de sain d'avoir un livre insolent entre les mains.
Benoît, vous reconnaissez dans tout ce qu'on dit.
Je suis très heureux d'entendre que toutes ces choses très très agréables sur le livre, mais j'ai envie de peut-être dire que c'est peut-être plutôt au procès d'Outreau qu'au procès d'Angers qu'il aurait fallu penser, parce que au fond, à côté de l'histoire que François a racontée, qui est le début du livre, il y a une autre histoire qui est celle d'un quadragénaire qui est pris dans des terreurs de notre époque, donc c'est pas les mêmes terreurs que dans des sociétés du passé. Et lui, il a deux obsessions, c'est effectivement les enfants, parce que on est dans une société où les enfants sont rois, où la parole des enfants a pris beaucoup d'importance, où les parents eux-mêmes ont peur de leurs enfants, ils ne savent jamais comment faire, etc. Et surtout, mon héros a peur des enfants parce qu'il n'ose plus regarder un enfant dans la rue, dans son immeuble, il n'ose plus sourire à un enfant de peur d'être immédiatement envoyé en prison pour attentat à la pudeur, puisqu'on est dans une société où si un enfant vous dénonce, vous ne pouvez absolument pas vous défendre. Alors ça, c'est son premier fantasme, sa première angoisse, et la seconde, c'est effectivement qu'il se sent complètement infantilisé. C'est pas du tout un livre en faveur du tabac, je m'en fiche, moi je fume un petit peu comme ça, mais c'est pas la question, c'est que il a l'impression d'être infantilisé parce que à son travail, il est obligé d'aller se cacher au cabinet pour fumer ses cigarettes, lui qui se pensait arriver au sommet de sa réussite professionnelle, lui qui, quand il était enfant, adolescent, rêvait de fumer des cigarettes, d'avoir une voiture, etc., il arrive dans une situation complètement inversée où il se retrouve à 45 ans dans la position d'un enfant de 13 ans qui est obligé de s'enfermer. Donc il y a à la fois le pouvoir des enfants qui grandit et l'adulte qui se sent infantilisé et il se sent comme ça entraîné.
En même temps, il y a la montée de l'intolérance aussi. On voit bien, par exemple, vous dites d'ailleurs que ceux qui ont fumé se comportent avec les qui ont arrêté, se comportent avec les fumeurs comme les anciens communistes. C'est-à-dire,
enfin, il y a une scène comme ça dans le livre. Moi, ce qui me frappe, c'est effectivement, j'ai l'impression quand même que chez les non-fumeurs, bon, il y a une légitime gêne parfois par rapport à ce que peut représenter le tabac quand on vous souffle de la fumée dans la figure, etc. Mais il y a aussi la montée comme ça d'un agacement psychologique qui fait qu'on ne supporte plus de voir les gens fumer. Et moi, parfois, je vois à des terrasses de café ou dans le train, alors que je suis dans la section fumeur, à l'autre bout de la section non-fumeur, si j'allume une cigarette, je vois une tête qui se lève et qui commence à tout sauter comme ça. Non pas parce qu'elle est gênée par le tabac.
Ça n'a rien à voir avec le tabac, c'est le sale con, mais dans n'importe quelle situation.
Été pareil avant, cas, ils ont gagné, il n'y a plus de voiture fumeur.
Ce qui est intéressant,
il n'y a que dans les TGV où il n'y en a plus.
Ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est qu'on s'aperçoit que le pouvoir s'accompagne de la connerie, justement. Et notamment, il y a une scène de procès avec les gamins, où le procureur prend un exemple, une espèce d'amalgame à la con, mais on pourrait voir ça dans la bouche de Maître Collard. Moi, j'entends, mais c'est exactement... Oui. C'est-à-dire que le gars dit... Oui, l'accusé, donc accusé d'attouchement, etc., me fait penser à... C'est un gamin, donc, le procureur. Me fait penser à Pluto, dans tel numéro de Mickey, Pluto qui fait semblant d'être agressif avec les autres chiens. Et il y a une espèce de métaphore à la con, mais très... comme on est maintenant, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'analyse, mais dans l'image forte, à la télé, partout, tu vois ce que je veux dire. Et donc, et ça, c'est très enfantin. Et l'image de Pluto convient effectivement. Tout le monde est ébahi par cet exemple-là dans le procès. Et ça, c'est typique de ce que font les adultes.
Benoît, pardon, sur le côté, sur l'aspect tabac, on vient d'une société où la loi, où le puritanisme, où la contrainte, etc., c'était les fumeurs qui l'imposaient. Donc on inverse ça. Moi,
on est parti d'un extrême à l'autre.
Je sais pas, il y a une concordance quand même, parce qu'en même temps, vous publiez donc « Je fume, pourquoi pas vous ?» contre la tabacophobie, sous la direction de Marc Cohen, avec une de vos contributions avec Elisabeth Lévy, fondation du 2 mars chez Pauvert. Et alors, vous signez un texte, justement, s'appelle « Cri et tout sautement », je crois.
Mais justement, c'est ce tout sautement qui est devenu un signe, un message, comme ça, plus qu'une réaction physique, si vous vous voulez, chez beaucoup de non-fumeurs. Mm. Mais cela dit, je voudrais pas qu'on confonde trop. C'est-à-dire que, bon, le roman, c'est pas un roman à thèse, hein. C'est une fantaisie, je veux dire. Je pars comme ça d'angoisse, de fantasme,
c'est,
etc.
C'est une fantaisie, sauf que, quand effectivement, comme dit notre camarade, vous soulevez un problème extrêmement sérieux. Voilà. C'est le mensonge des enfants qui peuvent emmener en prison des adultes. Et c'est vrai, vous dites qu'un commissaire dit, j'ai dans mon métier appris quelque chose, une règle absolue, les enfants ne mentent jamais. Et on a appris, voilà, hélas, lors du procès Dutroux et bien d'autres, que quelquefois, les enfants mentaient par perversité.
Les enfants mentent, les enfants trouvent
des chances. C'est très dangereux ce que tu es en train de dire, parce que de la même façon qu'il y a, que la parole sacrée, la parole des enfants a été longtemps sacrée, là, il y a un retour de balancier avec ça, et il ne faudrait pas non plus la parole des enfants soit niée.
Il pousse la parodie très loin. Par exemple, dans la scène dans l'autobus, par exemple, est formidable. Vous savez, les gens se pressent le matin, tous les enfants sont assis sur les places.
Ça, c'est pas vrai, ça, c'est
non, ça, c'est la scène qui a été le point de départ du livre, c'est une scène vécue, ça.
Un jour, je
monte dans le bus à l'hôtel de ville, et puis tout d'un coup arrive un groupe d'enfants avec leur monitrice, enfin je sais pas quoi, ils rentrent dans un centre aéré, et ils prennent absolument toutes les places assises de l'autobus.
Et toutes les personnes.
Après, il se met en route et à chaque station, il y a des gens qui montent, des vieux, des
femmes enceintes,
du travail, des femmes enceintes, et tout le monde est serré debout au milieu de l'autobus. Et pas une seule fois, un des enfants ni leurs accompagnatrices ne pense à se lever.
Oui,
à
mais ça, tout le monde est d'accord pour dire que les accompagnatrices font pas leur métier, qu'elles veulent faire lever les enfants. C'est, en même temps, il n'y a pas une pression sociale. Elles vous répondront qu'elles ne veulent pas le faire, le travail des parents.
N'oubliez pas d'aller jusqu'au bout, parce que la scène va encore plus loin. C'est-à-dire que il y a une vieille qui témoigne, il a dit, parce que lui
c'est
il voyant la vieille, il dit vous pourriez lui laisser, et la vieille témoigne contre lui, il a voulu obliger un enfant à se lever pour qu'il m'assied.
Mais c'est pour ça, moi je veux dire quand même, ce qui est important, François, c'est que c'est un peu toujours un glissement du réel à l'irréel, c'est le jeu de ce livre-là, hein. Ça se passe effectivement dans 10 ou 20 ans, l'idée c'était de rester proche de la réalité, mais en l'exagérant toujours un petit peu, donc il y a une avenue du président Bush, bon, on ne sait pas très bien lequel,
le chien s'appelle Sarko,
il y a un chien qui s'appelle Sarko, oui. Il y a des voies.
C'est le président Bush de métro à Paris, non?
Il y a des voies automobiles qui sont de plus en plus embouteillées, alors qu'on prend de plus en plus de mesures soi-disant contre la voiture. Il y a l'hôtel de ville, la cité administrative de la ville, qui a été transformée pour moitié en garderie pour enfants et pour moitié en bureau.
On voit pas du tout à qui vous pouvez faire allusion.
Juste un tout petit peu exagéré, et c'est pour ça aussi ce que disait Guy Carlier tout à l'heure, cette espèce de tribunal très angoissant des enfants. En fait, ça existe déjà un petit peu. C'est le parlement des enfants. Hein. Ouais. Il y a le parlement des enfants, il y a le conseil municipal des enfants. Je me dis pourquoi pas. Le tribunal des enfants qui vont juger l'adulte qui
a osé... c'est un gadget, le parlement des enfants. C'est un gadget.
Alors, on va recevoir maintenant le chanteur Julien Bert. Cet artiste discret n'appartient à aucun clan de la nouvelle chanson française, mais son univers n'est pas sans rappeler ceux de Serge Gainsbourg et de Yves Simon. Il vient de sortir son troisième album, Notre-Dame des Limites, sur lequel il a trouvé le juste équilibre entre chanson pop et influence plus soul. Il vient nous interpréter en compagnie de ses musiciens Philippe Arthur, Nicolas et Jean-Philippe son nouveau simple, Roi de l'Underground. Julien Bert.
Merci à tous. Je voudrais remercier particulièrement beaucoup de gens qui sont venus d'Andalousie. Dans ma tête, mais le reste suivait pas. Je traînais sans conquête, collé à mon bras. Passe un type qui passe à l'orange, connais, dis-moi. Tu sembles avoir la manière d'agir sans la loi. Ici, tu changes ma vie, tu mélanges voyelles et consonnes. Toi, dans le nom des personnes, roi de l'underground. Aussi, moi j'admire tout cet air que tu respires, le respect que tu inspires, c'est toi l'underground. Tout à coup, on s'éclipse, et voilà où on traîne. Je suis une bande d'artistes plastiques qui squatte un HLM. Elle est là dans la cage d'escalier, en larmes déshabillée. Et je vous jure, j'ai jamais touché, à peine regardé. Ici, tu changes ma vie, tu mélanges voyelles et consonnes, toi dans le nom et personne, roi de l'underground. Aussi, moi j'admire toute cette terre que tu respires, le respect que tu inspires, c'est toi l'underground. Semble sincère, si fidèle, un frère, si délicat et fort à la fois. Maintenant, je me tiens tranquille entre deux képis noirs. Un me tient et l'autre m'abîme à l'arrière du car. Moi, je souris comme un con coincé dans l'histoire. Elle m'a swatch volé, elle s'écrase sur le trottoir. Ici, tu changes ma vie, tu mélanges voyelles et consonnes, toi dans le nom des personnes. Aussi, moi j'admire toute cette air que tu respires, le respect que tu inspires, c'est toi l'underground.
Merci beaucoup.
Merci Julien Bert. Et merci également à ces musiciens Philippe Arthur, Nicolas Jean-Philippe. On les retrouve tout à l'heure en compagnie de Franck Gélibert au piano. Nous sommes donc avec Benoît Dutertre, La petite fille et la cigarette. C'est chez Fayard. Et vous avez changé d'éditeur entre-temps.
Oui, oui, effectivement. Depuis... Tous les précédents étaient chez Gallimard, mais voilà, celui-là chez Fayard.
Alors, ce qui est intéressant, je suis allé sur votre site internet, hein, parce qu'il y a un site du Tort, et alors, il y a plein de vaches partout, c'est-à-dire qui bougent dans tous les sens. Ça vous a pris tôt, en fait, cette passion pour les vaches?
Ça m'a pris, oui, assez
à l'enfance, déjà, parce que vous êtes normand.
Il y a nombreuses vacances
qui sont passées dans les Vosges. Oui, il est normand.
Non, mais en fait, c'était plutôt dans les Vosges, d'ailleurs, que je passais mes vacances, parce que je suis né au Havre, effectivement. Et donc, j'aimais bien les fermes des Vosges avec les deux, trois vaches, comme ça.
Président Coty,
Le Havre.
Le Havre, voilà.
Alors, je vous propose de vous laisser entre les griffes. Bon, enfin, vous allez voir, elles ont été un peu...
Limées,
de Willy.
De Benoît Dutertre, on dit qu'il est conservateur, traditionnaliste, un peu réac, pas très progressiste dans ses goûts, démodé, passéiste, salaud, bref, un bon jeune vieux con. Il déteste tout ce qui a trait au monde moderne, rendez-vous compte, il n'a même pas de téléphone portable. Oh, le ringard! Mais vous vous rendez compte, Benoît? Vous n'avez donc pas le plaisir d'entendre quelqu'un vous dire au portable, avec ce ton si doux qui vous met de bonne humeur pour toute la journée, « Ouais, t'es où ?» Jamais vous n'entendez la joie de quelqu'un quand il vous dit quand le portable passe mal. Mais comment faites-vous pour vivre sans dire au moins une fois par mois, bon ben je te laisse, j'ai plus de forfait, hein, mais rendez-vous compte, Benoît, toutes les conversations hyper intéressantes que vous loupez avec vos amis. Oh, salaud, t'as le nouveau Nokia 3350, celui qui fait SMS, MMS, WAP, webcam, appareil photo, centrifugeuse, appareil de raclette. Oh, salaud! Attends, eh ben moi j'ai le dernier Samsung E583 XB007 à 380. Oh, tu sais, il m'a coûté que 1000 euros. Je me suis endettée sur 5 ans, ouais! Mais franchement, Benoît, mais comment faites-vous? Vous n'aimez que les vieux trucs, l'opérette, le tango, Régine Crespin. Franchement, tu crains! Non mais, à vous entendre, il faudrait qu'il n'y ait que de la grande musique partout, tout le temps, mais c'est pas possible! Mais même au Macumba, tu voudrais qu'il y en ait comme ça? Ouais, les filles, hein, dans un instant, celui qui viendra chanter dans ta discothèque, le sexe symbole du moment, Luciano Pavarotti! On s'en sasse! Mais oui, les filles, vous pourrez lui caresser les bourrelets, lui lécher les poils, lui baiser la barbe! Mais tout de suite, c'est l'heure du striptease sur le nouveau Mozart! Allez, touche-toi les seins sur le Mozart! Mais non, Benoît, non, le ringard! Mais moi aussi, j'aime l'opéra, bien sûr. D'ailleurs, très régulièrement, le soir, pour me détendre, après une dure journée de labeur, j'aime, au calme, écouter la cinquième sonnerie de mon téléphone portable. Oh, j'aime tellement ça que des fois je me rappelle. Oh le ringard. Bien sûr qu'il pourrait y avoir un petit peu plus d'opéra à la télévision, d'opérette, de valse, de tango. Il pourrait y avoir une star académie de l'opéra. Tiens, voilà. Les élèves, eh ben, ça serait que des grosses. Des barbus. Parfois même des grosses barbus. En prof de chant, Florent Pagny, hein, qui ferait ça bénévolement pour l'amour de la musique. Et pour enfiler moins aux impôts, évidemment. En prof de diva capricieuse, Pétula Clark. Pas très diva, mais très capricieuse. En prof de lifting, Ariel Dombal. Bon ben voilà, je pense qu'on a notre castafiore. Hein. Et puis voilà, ça roule. Oh le ringard. Non mais je ne vous comprends pas, Benoît. Vous trouvez que la musique moderne n'est pas assez chantante? La techno, par exemple. C'est pas assez chantant? Et le rap, c'est pas assez chantant. Et Carla Bruni, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu vois, doudou, dis donc, oisie, c'est bon, ben, c'est pas assez chantant. Non, mais si tout ça c'est pas assez chantant, bah franchement vous êtes difficile aussi, oh le ringard. Benoît n'aime rien, il est contre le mariage homo. Bah faut pas dire ça, on peut toujours changer d'avis, tu sais. Il ne rit que sur les films de Fernandel et déteste les mots franglais, le parking, le stretching, Jane Birkin, non tout ça il aime pas. Bon, bah, puisque vous y tenez, je vous laisse avec vos vieux vinyles poussiéreux, avec les vieilles opératrices du 22 Asnières. Fantasmez donc tout seul sur les posters de Placido Domingo, torse nu, hein, avec des tablettes de chocolat bien fondues. Continuez à défendre la musique dite désuète. Moi, je dois vous laisser parce que tu, je viens de recevoir un SMS du moderne André Rieu. Oh le ringard!
C'était Willy, qui est en spectacle au Point Virgule à Paris, tous les lundis et mardis à 22h30, jusqu'au 26 juillet prochain.
Hein, j'ai bravo. Bien dit.
Bravo. Bravo.
Salut. Mais en même temps, moi je trouve que c'est ce qui vous rend sympathique.
Il est très doué, mais non. C'est vrai l'idée d'être ringard, pourquoi pas après tout.
Non mais il faudrait
faire partie de la fondation du 22 mars. Là,
non mais il a fait ça avec quart d'heure depuis 20 ans.
Il a oublié de dire quelque chose, c'est qu'en plus depuis que j'ai plus de téléphone portable, je me ruine parce que je dois appeler tous les autres qui ont des téléphones portables. Vous savez que la tarification fonctionne pas dans le même sens.
Alors reprenons votre bio. C'est la première fois qu'on prend le temps. Alors donc vous êtes, on va commencer. Vous êtes né le 20 mars. 60 à Sainte-Adresse, donc à côté du Havre. Non, c'est un bon début. Alors, j'ai pris votre bio sur votre site. Hein, parce que ça, Benoît Duteurs, donc est né en 60 à Sainte-Adresse, du Havre. Il est l'arrière-petit-fils du président René Coty. Donc ça commence comme ça, donc forcément, on a envie de vous demander, est-ce que vous avez des souvenirs?
Non, j'ai des photos parce que je suis né le même jour que lui, le 20 mars. Donc j'ai fait des photos d'anniversaire de mes 1 et de mes 2 ans avec mon arrière-grand-père, effectivement. Sauf que c'était quelque chose qui était très présent au Havre parce que c'était quand même le président de la République qui venait juste d'être président de la République. Et en même temps, j'ai eu une enfance finalement en fait tout à fait normale parce qu'il est mort en 62 et voilà, c'était une vie provinciale.
Il
n'y
a pas eu de poids de votre éducation, il n'y a pas eu le poids de ce grand personnage illustre de votre famille comme ça qui vous a un peu étouffé en fait.
Non, pas vraiment, parce que dans ma famille, il y avait plutôt une espèce de rejet, c'était un petit peu bizarre. Oui, c'est-à-dire que l'obsession de ma famille, c'était de vivre comme tout le monde, d'être justement dans la normalité totale. Il ne fallait pas justement se singulariser ou vouloir trop se singulariser, parce qu'on aurait été de la famille du président, il y avait au contraire une espèce de noblesse qui était de vouloir avoir une vie très très sainte.
On ne vous a même pas forcé à faire des études politiques, parce que ça me fait penser au héros du roman, qui manque d'ambition, qui est diplômé, qui se voyait bien finalement dans un cabinet ministériel et puis qui finit un peu conseiller technique.
Non, en fait, ça s'est vite arrêté parce que après mon arrière-grand-père, j'ai eu encore un grand-père qui était député et puis après, voilà, la fibre politique s'est arrêtée là.
Par contre, la fibre musicale est revenue.
La fibre musicale est revenue.
À 16 ans, vous ouvrez les armoires de vos grands-parents. Voilà. Et là, vous trouvez des disques...
Et alors ça, c'est un petit peu... Je dois ça un peu à mon arrière-grand-père Coty, d'ailleurs, d'une certaine façon, parce que quand il était président de la République, entre 1954 et 1958, il a reçu à peu près tous les disques qui se faisaient à l'époque, qui lui étaient envoyés par les éditeurs. Et donc, dans
c'est
une armoire, effectivement...
C'est pas dans un musée du chef d'État, ça devait être... Vous devez rendre tout ça à la nation.
J'aurais pas dû le dire, oui, pardon.
Non, mais à l'époque, ça ne se faisait pas.
Et donc, dans une armoire, chez mes grands-parents, il y avait des disques extraordinaires. Il y avait bon, les compositeurs français de l'époque, Poulenc, Millot, que j'ai toujours beaucoup aimé. Et puis, il y avait ces opérettes de Messager, d'Offenbach, etc., qui, pour ma génération, étaient déjà des choses complètement négligées, oubliées, mais que j'ai retrouvées grâce à ces envois.
Et donc, vous avez fait donc des études de musicologie ?
Oui, en fait, moi j'ai toujours voulu écrire, hein, être écrivain, voilà, ça a commencé très vite, mais j'avais une vraie passion pour la musique, et donc je me suis, au fond, écrire, bon, ça s'apprend tout seul, et donc j'ai plutôt fait des études de musique.
En écrivant, vous avez envoyé vos premiers écrits à... C'est Armand Salacrou qui vous avait envoyé ?
Oui, parce que c'était l'écrivain du Havre. Il était à l'époque, je crois, président de l'Académie Goncourt, mais je savais même pas ce que c'était que le prix Goncourt. Mais pour moi, j'étais heureux de voir qu'il y avait un écrivain au Havre. Et donc, il m'a reçu très gentiment chez lui. Je lui ai apporté mes poèmes, etc.
Et voilà. Little Bob aussi au Havre, hein, vous auriez.
Et il y avait aussi Little Bob, absolument. Mais...
Et ensuite, vous aviez envoyé, envoyé à Samuel Beckett quelques écrits.
Et voilà. Quand,
je sais pas qui c'est Little Bob.
Little Bob, c'est le nouvel Hobbes, là, vraiment.
C'est
le seul vrai rocker
c'est le vrai
français.
Rock français qui est le plus rocker. Tourné vers l'Angleterre. C'est un rocker qui a eu beaucoup de succès en Angleterre, d'ailleurs.
Bon, on l'a reçu souvent ici.
Oui, qui est toujours dans le combi Volkswagen, qui doit avoir 50 ans maintenant et qui est toujours sur la route avec sa femme, ses musiciens et le truc, comme à 20 piges. Ouais. Et on le salue parce qu'on l'aime beaucoup et c'est un vrai sans compromission.
En plus, Benoît, vous étiez très babacool dans votre jeunesse.
Ah, moi, oui, j'ai été extrêmement babacool, j'ai les cheveux très longs, j'écoutais que du rock, etc. Ouais. Oui, j'étais l'opéra à ce moment-là.
Vous étiez teint aussi, parfois.
Mais surtout, j'ai eu le virage. Moi, c'est ma génération. C'est-à-dire qu'en 77-78, je suis passé complètement New Wave, je me suis fait teindre les cheveux en rose, etc.
Vous avez accompagné au piano parce qu'il
se fait moins à l'Elysée.
Vous jouez très bien au piano et vous avez accompagné la compagnie Luba pour un spectacle de jazz.
Créole.
Non. Un spectacle de jazz dadaïste.
Oui, j'étais en fait.
Là, c'est vraiment new votre période.
Non, mais j'aimais la musique moderne. Vous connaissez Bernard Luba, très grand musicien de jazz français, qui avait créé une compagnie.
On n'a pas entendu la réponse de Stéphane.
le pauvre Benoît, on a l'impression qu'il est comme dans son livre quand il y a le commissaire qui le suspect. Hein, et vous êtes suspecté de tas de trucs. Pourquoi les marquer sur votre site, Benoît?
C'est pas vraiment moi qui l'ai assumé. Vous avez dû la passer à France Culture, celle-là, non? Vous avez passé des extraits de ça?
Oui, mais il n'y a pas eu beaucoup de disques, malheureusement.
Il n'y a pas eu beaucoup de monde non plus.
Il y a eu beaucoup de monde.
Surtout, il y a un truc qui résume vos goûts musicaux, Benoît, c'est quand même, vous aimez vous aimez l'humour en musique. Là, il y a eu une célèbre polémique qui vous a opposé à Pierre Boulez. Ce qui vous emmerde, c'est Boulez, c'est l'esprit de sérieux, c'est le chef de secte, quoi, non?
Oui, bien sûr, oui.
Mais pourquoi la polémique est allée si fort? Parce qu'on vous a accusé de révisionnisme.
Oui, d'être nazi, etc.
C'est quand même monstrueux, ce genre d'accusation, quand on voit sur le plan politique.
Mais parce que.
Non, parce que, en gros, je me suis. Donc, à cette époque, le jazz, puis aussi la musique contemporaine, j'étais passionné par tout ce qu'il y avait comme mouvement d'avant-garde, etc. Et puis, donc, j'écoutais du Boulez, etc. J'écoutais la musique. Puis, au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'en fait, ça m'ennuyait plutôt. Et j'ai essayé de comprendre.
Encore plus tôt.
J'ai essayé quelques années après de comprendre pourquoi, et donc j'ai fait un livre très polémique, effectivement, sur la musique contemporaine et sur cet intellectualisme musical qui est devenu un art officiel. L'idée du livre, c'était en fait que l'avant-garde qui se voulait audacieuse, moderne, subversive, en fait, était devenue elle-même un nouvel académisme, une institution soutenue par les.
C'est un notable.
Voilà. Ces gens sont vraiment pas sûrs d'eux puisqu'ils vous ont attaqué
donc,
très fortement.
Et donc, effectivement, à ce moment-là, toute l'institution musicale. Loin d'accepter ma critique, a dit s'il nous attaque, c'est parce que c'est un réac, et si c'est un réac, ça doit être un fasciste, et si c'est un fasciste, c'est un nazi. C'est toujours ce glissement. C'est-à-dire que dans la chronique que j'entendais tout à l'heure, ce qui m'amusait, c'était qu'il y avait toujours cette idée, effectivement, je suis pas moderne, je suis contre la modernité. Mais qu'est-ce que c'est pour moi l'esprit moderne? L'esprit moderne, c'est l'esprit critique. C'est oser regarder son époque et oser avoir un regard critique sur son époque. Et quand la modernité devient une institution, elle refuse l'esprit critique et elle devient le contraire de la modernité. C'est pour ça que moi je prétends que je suis moderne quand j'attaque la musique contemporaine ou quand je critique mon époque, parce que pour moi, justement, le vrai esprit moderne, c'est d'oser regarder d'une façon vraiment critique et vraiment subversive l'époque dans laquelle on vit.
De musique contemporaine, et que moi je suis allé voir le marteau 100 mètres, justement, et c'est vrai, c'est vrai, et tu as les gens dans la salle, t'as le malheur de faire un petit peu. C'est-à-dire, ils sont encore plus réac que ceux qui écoutent du Mozart. Enfin, tu vois, c'est-à-dire le truc, il y a une espèce de chapelle d'initiés avec des
Trucs. Je vais vous emmener un concert de Laurie, vous verrez ce que vous allez faire.
Non. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, il n'y a absolument rien de subversif dans ce que fait Boulez, ni dans ce qu'a jamais fait Boulez. Il a institutionnalisé la musique contemporaine.
Et en plus, il fait vivre beaucoup de gens.
Et surtout, ça, un jour, je l'ai rencontré.
C'est un milieu qui se défend aussi.
Un jour, je l'ai rencontré, j'ai dit, mais attendez, comment le propre de la musique, c'est le ressenti, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas l'analyse. Donc, même s'il y a un problème de culture musicale, vous comprenez ce que je veux dire, vous pouvez pas uniquement intellectualiser la musique. Or, la musique contemporaine, c'est quelque chose qui dérange. Ça, c'est le côté positif, parce que s'il n'y avait pas eu des accords dissonants depuis Chopin, rien n'aurait avancé, d'accord. Mais là, on en est à un stade où ça n'a, pour nous, aucun intérêt, où il y a un rejet au niveau de ce qu'on ressent. Donc,
en tout cas, là où on ressent des choses, c'est vraiment quand on écoute. Je ne sais pas si vous écoutez sur France Musique
l'émission. Non, mais attends,
donnez-moi un peu loin.
Et je vais finir. Et Boulez n'a rien trouvé. Pourquoi c'est chiant?
C'était un peu chiant et un peu long, ce que vous disiez.
C'est bien tout. Tenté.
À mon avis, j'ai tenté une diversion.
Bah, merci, Benoît. Tu nous as brouillé.
Bon, alors je vais rester dans mon rôle.
Ah non, c'est vrai que vous êtes passionnant, mais je me dis, tiens, il est très sérieux.
Vous avez compris, Benoît.
J'ai tout à fait compris. Je suis d'accord avec vous.
Les auditeurs intelligents ont des critères. Je suis pas assez intelligent pour vous comprendre, Guy, sur ce sujet. Mais, non, par-delà la plaisanterie, vous savez que sur France Musique, c'est toujours le samedi matin.
C'est tous les samedis à 11h, effectivement.
C'est vrai que c'est une émission, c'est réjouissant. En plus, vous êtes entouré d'une bande de joyeux drilles.
Oui, il y a des chroniqueurs comme Nicolas Desquendorf, comme Lambert Wilson, qui va faire une chronique sur la comédie musicale.
C'est le petit-fils de
Desquendorf.
Non, mais c'est la famille.
Oui.
Et il est très, très drôle.
C'est Lambert Wilson. Lambert Wilson, c'est le fils
du président Wilson.
C'est un concept. Je vous propose maintenant d'écouter Didier Porte.
Président Cluzel, si vous m'entendez, réjouissez-vous. Le rajeunissement de l'audience de France Inter est en bonne voie. Ce matin, nous recevons l'arrière-petit-fils du président René Coty. Vous verriez la tête qu'il a, c'est un vrai punk. Depuis qu'il est entré dans le studio, il fait des doigts d'honneur à tout le monde et on l'a empêché de justesse d'uriner sur le piano de Franck Gélibert. Avec ses potes Kevin Auriol, Brandon Deschanel et Lolita Pompidou, ils ont monté un groupe de métal nihiliste à côté duquel Ozzy Osbourne et ses Black Sabbath à leur grande époque auraient fait figure de petits chanteurs à la croix de bois. Leur nom, c'est les Prince Albert Fistfuckers. Au début, ils avaient prévu de s'appeler les Sonotone Killers, mais le nom était déjà pris par le groupe de l'arrière-petit-neveu de Félix Faure. Mais Benoît ne fait pas que de la musique, il écrit aussi des livres, des romans contestataires ravageurs, violemment centristes, même carrément de centre-droit, quand Benoît laisse libre cours à sa fougue naturelle. Son avant-dernier, La Rebelle, était, paraît-il, un portrait à peine masqué et au vitriol de Pascal Clark. Vous, au moins, cher Benoît, vous n'hésitez pas à aborder les grands sujets de portée universelle. Et votre dernier roman, que cette fois j'ai lu, n'est qu'un pur cri de haine anti-delanoïste. Un authentique appel à l'insurrection contre le crypto-polpotisme de ces commissaires de la pensée correcte qui prétendent instaurer des mesures aussi évidemment totalitaires que l'aménagement des couloirs de bus en ville, l'interdiction de fumer dans les transports en commun, la prohibition du passage à tabac conjugal et la réglementation du travail des enfants de moins de 5 ans dans les mines d'uranium et les chantiers de désamiantage. C'est évident, Benoît Dutertre, l'enfant roi vous emmerde, le moutard vous monte au nez. Même s'il ne comporte pas de repères temporels explicites, La petite fille et la cigarette est clairement un roman d'anticipation et c'est amusant parce que justement, je suis récemment tombé dans une faille spatio-temporelle. Ça m'était déjà arrivé à peu près à la même époque l'an dernier. J'en profite pour rappeler que lorsque je dis que je suis tombé dans une faille spatio-temporelle, cela ne signifie en aucun cas que j'ai eu des relations intimes avec Régine. Non, pas du tout. Ça veut dire juste que je me suis retrouvé propulsé dans le futur pendant quelques instants. Et comme j'écoutais France Inter à ce moment, voici ce que j'ai entendu. Vous allez voir, Benoît, c'est encore pire que ce que vous aviez imaginé.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 avril 2045, il est pile 11h sur France Inter. Le Flash Info vous est présenté par Gaston Porte avec le concours des magasins But. Fais pas ta pute, viens donc chez But.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Suite à l'Assemblée Générale de ce matin, l'intersyndicale des personnels d'harmonisation environnementale et prophylactique de la Maison de la Radio, anciennement dénommée agent d'entretien, a décidé de mettre fin à la grève entamée le 4 mai 2005 suite à la découverte d'une déjection non désodorisée par son ancien propriétaire dans la cuvette des sanitaires située à proximité du studio de Macha Béranger. Au terme d'une petite quarantaine d'années de négociations, le président de Radio France, Monseigneur Gaillot, a fini par céder aux principales revendications des grévistes, l'installation de caméras de surveillance dans toutes les toilettes de la maison afin d'identifier les auteurs de non-relèvement de lunettes avant miction, ainsi que le dépistage obligatoire du virus de la gastro-entérite pour tous ceux qui veulent s'y rendre. Politique intérieure, avec la réunion comme chaque mercredi du Conseil des ministres sur la pelouse de l'Élysée, afin de pouvoir demander leur avis aux canards qui vivent dans le bassin. Après avoir garé leur patinette de fonction dans la cour du palais, les ministres ont rejoint le président Delanoë dans le hammam Jean-Louis Debray, oh. Facétieusement baptisé ainsi pour sa propension à faire suer ses contemporains. Je rappelle en effet que depuis l'entrée de la Turquie dans la communauté européenne en 2025, toute l'aile droite de l'Élysée a été transformée en hammam. Pour nos jeunes auditeurs, je rappelle ce point d'histoire suivant. C'est le président Chirac qui, en son temps, avait soutenu l'entrée de la Turquie dans la communauté, avec pour principale motivation d'obliger son épouse Bernadette à porter enfin la burqa et donc disparaître de sa vue. Donc je vous disais que le président Delanoë a demandé à son premier ministre, Jordi Junior, de lire l'ordre du jour du Conseil. Première décision annoncée, fin d'une polémique qui commençait à empoisonner le climat social. La Saint-Orlando reste un jour chômé. Hein. On ne revient pas là-dessus. Le ministre
c'est
de...
une sainte. En tout cas, on sait que c'est son sexe.
Le ministre de la Culture, Stevie Boulet, a confirmé la nomination de Dalida à l'Académie française à titre posthume, en faisant fort justement remarquer qu'elle n'était finalement pas tellement plus morte que la plupart des pensionnaires actuels. Il a également annoncé que, conformément à la demande de Madame la ministresse des Affaires vaginales, Madame Isabelle Alonso, la Tour Eiffel serait rasée en raison de sa forme outrageusement phallique et remplacée par un hologramme géant de Jack Lang en train de mixer sur son char de la Gay Pride d'Istanbul. Je rappelle ce point d'histoire à nos jeunes auditeurs, l'entrée de la Turquie dans la communauté n'a pas été une si mauvaise opération que ça. Ensuite, le Conseil a fait le point sur les grands chantiers de la présidence, notamment la transformation de l'autoroute A7 en couloir de bus, et surtout l'extension de l'opération Paris-Plage à l'ensemble du territoire national, qui suscite quelques réticences, notamment celles de l'Alsace et de la Lorraine, lesquelles refusent de se laisser ensabler et menacent de demander leur rattachement à l'Allemagne. Dans les coulisses du Conseil, on a bien sûr évoqué la préparation du congrès de l'île de Ré. De fait, les principaux leaders de l'ex-parti socialiste, devenu parti socialiste tropézien depuis le congrès de Ramatuelle, se répandent en folles rumeurs, notamment celle du remplacement de Mazarine Pinjot par le jeune Richelieu Becbédé. Ah, pardon, on me signale dans mon oreillette qu'un nouveau mouvement de grève vient d'être déclenché à l'initiative des agents d'apaisement préposés à la kinésithérapie des zygomatiques de Radio France, anciennement dénommée chroniqueur. Prochain flash en 2012.
France Inter et les magasins But vous ont présenté le flash info de Gaston Porte. Fais pas ta pute, viens donc chez But.
Tout ça pour dire, Benoît Dutarte, que ce fut un plaisir de vous lire.
Merci. C'était Didier Porte. Et qui est en spectacle à partir de ce soir et jusqu'au samedi soir prochain à 20h au Point Virgule à Paris, lui aussi. Benoît.
Bah en tout cas, voilà, j'ai le volume suivant du livre qui est prêt, là. J'ai à peu près tous les éléments. Juste deux petits points. Vous avez parlé du président de Radio France, Jean-Paul Fusel, et ça me rappelle une histoire. Dans mon émission, il y a quelque temps, je passe une chanson d'une vieille chanteuse brésilienne, très, très grande chanteuse des années 30, comme ça, qui avait la voix très cassée. Enfin, c'était une espèce d'Edith Piaf brésilienne, comme ça. Et je dis à l'antenne, voilà, une grande artiste, et peut-être que les excès d'alcool et de tabac qu'elle a fait toute sa vie ont contribué aussi à façonner la beauté un peu particulière de sa voix. immédiatement, deux jours après, lettre d'auditeur au président Cluzel disant « C'est scandaleux, on ne peut pas laisser dire que le tabac aurait contribué à faire la beauté d'une voix. Il faut prendre des sanctions contre M. Duterte. »
Vous n'êtes pas le seul à recevoir des lettres. Hein. Ah, on va s'embrasser.
C'est pas le seul à ce qu'on écrive au président. Est-ce qu'il avait écrit « Commandant Tour »
Deuxième chose,
on connaît celui-là.
Deuxième chose sur... c'est pas un roman anti-Delannoy du tout. J'ai écrit à propos de la circulation à Paris, avant l'élection de Bertrand Delannoy, j'avais déjà écrit un petit livre qui s'appelait Le Grand Embouteillage, où je parlais justement de la folie de la circulation à Paris. Moi, je pense qu'il y a trop de voitures à Paris, et simplement, ce qui m'amusait, c'était qu'on est dans une espèce de folie, justement, parce qu'on veut toujours prendre des mesures, mais sans vraiment prendre la seule mesure. Sans vraiment prendre la seule mesure qui arrangerait la circulation, ce serait diminuer le nombre de voitures. Alors, toutes les fausses mesures qu'on prend, genre par exemple, on va retirer les voies sur berge à la circulation, ça fait qu'il y a plus de voitures sur les boulevards, donc que la pollution augmente, donc on prend des mesures.
L'idée, c'est de décourager la circulation.
Oui, ça ne marche pas, vous l'avez vu.
Ça ne marche pas, il faut alors, juste interdire les voitures dans le centre de la ville.
Ouais, donc c'est pour ça que voilà, je crois que c'est une tendance de l'époque, c'est pas simplement celle de l'actuel maire de Paris, mais ça m'a servi de toile de fond effectivement pour le roman.
On va recevoir à nouveau Julien Baer pour une reprise d'Edith Piaf dont vous parliez. Ça tombe bien, c'est un gars.
Il avait écrit Elena.
Oui, mais Elena n'a plus de voix. À force d'alcool et de tabac,
on aime bien Julien Baer,
Elena, voilà, Elena Noguera qui devait venir, mais c'est Julien Baer qui nous fait la gentillesse de revenir pour une reprise d'Edith Piaf. C'est un gars, et il est accompagné par Franck Gélibert au piano.
Merci à toi.
C'est un gars qui est entré dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit des folies. Tu es jolie, tu es jolie. On me l'avait jamais dit. C'est un gars qui ressemblait à un ange. C'est un gars qui parlait comme un ange. Tu es jolie, tu es jolie. J'en suis tout étourdi.
De cette chanson.
Oui, je sais que je vous emmerde.
Regarde ce qu'il y a dans le texte de la chanson. C'est un gars qui était beau comme un ange qui m'a dit et ça le fait quoi. Ouais, c'est d'une émotion bouleversante.
Et puis ce qui est très bien, c'est qu'il c'est sa réinterprétation, c'est-à-dire qu'elle était figée par Piaf et lui il refait autre chose complètement. C'est super bien.
Il revient tout à l'heure. Donc Notre-Dame des limites, c'est Julien Baer. Bonjour les jeunes, parce que sont entrés dans le studio. Voilà.
Tous comme ça.
En plus, il n'hésite pas à couper belle. Alors ça va, sinon chez vous.
Non mais c'est parce qu'Alop.
Arthur, je vous demande de les applaudir. Arthur Junior et Elodie Navarre. Ils viennent nous présenter, avant qu'il ne soit trop tard, voilà un film de Laurent Dussault qui sort On est mercredi, aujourd'hui même, voilà.
Arrêtez, éteignez vos radios et allez au cinéma.
Non, à cette heure-là, tout va bien.
Non, il y a une séance à 11h.
Non, il y a des séances à 10h maintenant.
Ah oui, il y a des séances à 10h. Alors, c'est vrai que c'est une réunion entre amis. C'est, vous retournez dans... c'est un film qui est assez sabbatique. Un film choral, où une bande de copains, une bande d'amis, comme on a tous.
C'est pas les choristes.
Non, sinon vous allez être surpris par le vocabulaire. Et alors, vous vous retrouvez dans une maison à la montagne, et pour revivre avant que...
Un
chalet, oui, avant que la maison ne soit plus ce lieu de rendez-vous des amis, eh bien, c'est une dernière fête, et donc vous vous retrouvez l'un et l'autre. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous, Élodie, vous avez le rôle d'un personnage qui se fait larguer ce soir-là par l'homme de sa vie.
Par son mari, avec par son mari, elle, elle s'est mariée avant.
Le début du film commence justement sur votre mariage, et un an après, il n'y a plus rien.
Il ne l'aime plus.
Voilà.
Il
vous l'apprend dans le film, c'est qu'il ne vous aimait même plus avant.
Ouais. Oui. Non, il ne m'aimait plus le jour où il s'est marié.
Oui, ce qui est quand même épouvantable. Et c'est vrai que vous faites passer des émotions incroyables sur, parce qu'on peut se reconnaître dans votre destin, le destin de votre personnage, évidemment.
Vous avez été.
Pardon?
Non.
Et puis, alors, moi j'aime beaucoup également Arthur Junior, parce que c'est pas la première fois qu'il vient. Je trouve qu'il a un vrai tempérament au cinéma. Et quand il arrive dans le film, tout d'un coup, c'est votre personnage aussi qui fait ça. Vous êtes comme un catalyseur.
C'est l'homme qui... Ou un fouteur de merde. C'est un peu le semeur de merde.
Vous arrivez comme le petit copain d'un des amis de la bande, de Titi, et là, à ce moment-là, vous dites, vous avez entendu parler des uns et des autres par oui dire, et vous dites à chacun ses vérités.
Oui, en fait, il y a le noyau dur. Oh là. Pardon, il y a le noyau dur des amis qui se retrouvent tous les ans, et il y a les pièces rapportées, donc les femmes d'eux, les petites amies d'eux, les petits amis d'eux, et donc moi je les connais pas du tout, je rentre, je dis bonjour, alors toi t'es celui qui vend les petits pois, toi t'es celui qui appelle jamais, toi t'es le trou du cul, pardon, excusez-moi, et donc vu que j'invente pas ces choses-là, ça veut dire que tous les amis de Titi se rendent compte de ce que dit Titi
alors, sur leur compte, oui.
Sur leur compte, et donc tout de suite c'est un peu un déclencheur. Et donc, voilà, ça commence mal.
C'est le catalyseur.
C'est une
version comique de Théorème de Pasolini, en fait.
Il faut savoir qu'ils se retrouvent aussi après la mort d'un de leurs amis, qui était le chef de la bande. Ils se sont pas revus pendant un an, ou en tout cas beaucoup moins. Et de se retrouver dans ce huis clos, tous ensemble, fait qu'à un moment donné, il y a plein de révélations qui se font. L'alcool et la fumée aidant.
Et
mort aussi
de votre mariage.
Oui.
Alors, d'ailleurs, vous avez cette réplique, à un moment, vous dites... Vous êtes dans la cuisine,
vous m'avez gâché.
Le truc ignoble, que ça vous a gâché le...
Tout le monde s'en fout de mon mariage parce qu'il est mort.
Et l'autre,
en rentrant.
Elle lui dit, sa copine, elle lui dit, mais enfin, quand même, il est mort, toi, t'es mariée.
Et t'es vivante, surtout. Non, la vraie révélation aussi du film, c'est, moi je trouve, c'est toute cette joyeuse bande de comédiens, parce qu'on a le sentiment qu'on va vous voir pendant un bout de temps, et que c'est assez réjouissant de vous voir à l'œuvre. Il y a Frédéric Diffenthal, je trouve que c'est un rôle parfait pour lui. Émilie Dequen, vous, Élodie, Olivier Sitruc, Édouard Montout qui joue votre mari qui se tire, Lisa Martineau, Vanessa Larré, Éric Savin et vous, Arthur Junio. Je sais pas si les uns et les autres, vous avez le même sentiment.
À ce propos, j'ai lu dans une interview que vous aviez tourné 3 semaines, alors je sais pas si c'est vrai, ça
une
me paraît très très court.
Justement,
ça me paraît techniquement encore plus compliqué parce qu'il y a énormément de scènes où vous êtes très nombreux, il y a des mouvements de caméra.
Il y a une unité séquence. De lieu.
Hein. Oui, mais tout de même.
Avec beaucoup de plans séquences. Voilà. Oui. Moi, je voulais ajouter ça. Effectivement, c'est une manière de filmer sans jamais couper. Et c'est très difficile à faire. Seuls les grands metteurs en scène arrivent à le faire. Et c'est vrai que je trouve que de la part de Laurent Dussault, c'est
Et les grands cadreurs.
Et les grands cadreurs, voilà,
c'est
incroyable.
Et les grands comédiens.
Il y a parfois, je
sais pas. Non, il faut toujours être dans la lumière, oui.
Il faut donc pas buter sur son texte, c'est vrai, Guy a raison. Et c'est vrai qu'il faut quand même souligner, enfin, faut pas penser que le film est un film dramatique, hein, même s'il se passe des situations parfois
pas très drôles.
Voilà, c'est quand même une joyeuse comédie, c'est vrai que vous l'avez cité, enfin, ça rappelle tous ces films de bande à la Laurence Kasdan, etc. Moi, je voulais juste ajouter que le hasard a voulu qu'hier soir, j'ai dîné dans un restaurant et une table à côté de Frédéric Diffenthal et toute une petite bande,
vous
visiblement,
dîné de quoi, hein,
vous n'étiez pas là. On avait chacun des choses à fêter, et on fêtait la sortie du film. Et il y avait Édouard Montout qui était là, et visiblement plein de gens qui ont joué dans le film.
Et ils ont mangé deux fois. Alors.
Ça veut dire il a mangé deux fois.
Et il les a invités à dîner.
C'est pas bon.
J'ai fait une gaffe. Non, mais surtout la conversation que j'ai eue avec l'équipe du film, avec Frédéric Diffenthal, on a insisté sur cette atmosphère qu'il y avait eu pendant ce tournage, où pendant 3 semaines, vous étiez tous ensemble, et j'ai l'impression que toute la sympathie qui se dégage du film, elle vient aussi du fait que vous étiez quand même tous tous ensemble aussi une joyeuse bande d'acteurs. Et ça se ressent dans le film. Quand
mais
même.
Vous étiez soudés, comment s'est passé justement?
Ah ben, on voulait vivre ensemble, on a décidé de prendre un chalet à côté pour rester la bande la nuit. On faisait des tartiflettes, des raclettes, des tarots.
C'était une espèce de loft en fait.
C'était le loft, oui.
C'était un peu
plus 6 kilos au bout de 3 semaines.
Ça. Mieux travailler.
Il s'est passé quelque chose qu'on voit assez rarement. On ne se quittait plus, c'était assez incroyable. Et je pense que le film fonctionne...
aussi grâce à ça,
ça
ouais.
Et
ouais.
Vous êtes comme ça dans la vraie vie, parce que vous, Élodie, je crois savoir que vous avez tourné un film avec une de vos amies, enfin une
Lisa Martineau.
Oui. Et puis aussi vous avez tourné sous la direction d'une réalisatrice que vous aviez connue au conservatoire du 10e arrondissement.
Laetitia
Colombani. C'est donc vous êtes très bande d'amis, vous?
Et il se fait que j'ai été au conservatoire du 10e et qu'il y a Louis Garrel qui était aussi, donc on se retrouve sur des courts-métrages ou des films. Il y avait Laetitia Colombani, Nader Boussantel qui est dans Aquabon. Et c'est par hasard qu'on se retrouve sur les mêmes films. C'est juste qu'on a démarré ensemble. Arthur, on avait fait Grande École ensemble. On ne savait pas qu'on allait être engagé sur ce prochain film. Lisa était une amie depuis longtemps. Donc c'est vraiment que du hasard.
Et là-dedans, il y a un côté génération. Hein, ils ont tous entre 25 et 35 ans, ou enfin autour de 30 ans, disons.
Tout en a 44 quand même.
Mais d'accord, en tout cas, ça joue là-dessus. Qu'est-ce qui vous semble dans ce qui est décrit, c'est-à-dire des relations humaines parce qu'après tout, quand on regarde, c'est toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir, comme dit Corneille ou Racine, enfin un des deux. Mais les gens qui passent le bac m'écriront.
Du plaisir. Avec Laurent Boulzy.
Mais qu'est-ce qui vous paraît différent dans l'appréhension des relations amoureuses comme ça pour des gens qui ont 30 ans que des gens qui en ont 40, 50, 60, 70, etc. Qu'est-ce qui caractérise ça?
Je crois qu'on a des questionnements. Enfin, à un moment donné, on sort de notre adolescence, on doit devenir adulte et je pense qu'on a des questionnements sur le passage de la trentaine. On n'a pas encore d'enfants.
D'accord, mais ça je le comprends, mais ce que je veux dire, c'est que ce film-là, il marque ce que sont les trentenaires aujourd'hui. Ça n'aurait pas été le même film il y a 20 ans, ça n'aurait pas été le même film il y a 50 ans, évidemment, alors que ces films ont toujours existé. Il y a toujours eu comme ça des films qui marquent une bande, Rendez-vous de juillet, par exemple.
Je vais venir à la rescousse de François pour dire aussi que dans quelques semaines, je crois, va sortir le nouveau film de Clapiche. Qui porte un peu sur le même thème, c'est la suite de l'Auberge espagnole, et c'est vrai qu'en gros, ces trentenaires, on a envie de dire que ce sont à la fois des vieux jeunes, des jeunes vieux, etc. Et c'est vrai que je crois comprendre la pensée de François. Auparavant, peut-être il y a 20 ou 30 ans, on aurait fait des films sur pu faire le même film sur les gens de 20, 25 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont 30 ans, ils se posent les questions qu'on se posait plutôt avant, à 20 ans. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que veut dire. Il y a un vrai phénomène générationnel, qui a un autre film sur le même
thème. Tous en même temps, parce que là, on va plus rien.
Alors, je pose la question de 30 ans.
On n'a pas de téléphone portable.
Ah non. Moi, j'aurais voulu poser une question à Arthur, parce qu'il joue.
Quelle personne ne répond.
Non, très chanceux.
Non, mais répondez.
Je reviens. On nous dit beaucoup en promo. Alors, en ce moment, il y a une mode sur les films de trentenaire. Moi, déjà, c'est l'histoire de l'auteur. C'est un peu l'histoire de sa vie. Donc, le côté de surfer sur une mode ou prendre ce que sont les trentenaires aujourd'hui, je suis pas sûr. On a pris l'histoire de cet auteur parce que c'est lui, c'est ses amis. Et donc, à partir de là, on n'est ni sur une mode, ni sur... Après, peut-être que les gens sont comme ça aujourd'hui. Des films sur les trentenaires, il y en a pas mal, mais des films d'amour, il y en a 12 000. Des polars, il y en a 12 000 aussi. Donc, après, c'est des genres. Je crois que ces genres-là existent déjà, évidemment. On n'a pas révolutionné le cinéma, mais...
Non mais en tout cas, c'est pas ma
ça va être. Je sais, oui.
Très bien rendu d'ailleurs. Il y a une bande originale. Moi, j'ai la bande originale du film avant qu'il soit trop tard. Et c'est vrai qu'il y a Huxley Workman, il y a Archive, il y a vraiment des morceaux.
Oui, il date l'époque.
Ça date l'époque peut-être, mais en même temps, c'est vrai que c'est très festif parce que vous dansez beaucoup. Ça boit un peu aussi.
Oui, un peu.
Ça fume.
Ça fume, voilà. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Je reviens à vous, Benoît. J'ai lu, toujours sur votre site internet, que votre précédent roman, La Rebelle, avait été vendu à UGC pour en faire un film.
Oui, absolument. Enfin, le metteur en scène n'est pas encore choisi, mais tout ça est en cours.
C'est Pascal Clerc qui va jouer son rôle.
Mais alors ça, pour être précis, c'est un journal qui a dit que j'avais écrit un roman sur Pascal Clerc. C'était dans Marianne.
Étonnez-vous.
Mais c'est pas du tout un roman sur Pascal Clerc. Le personnage mélange beaucoup de sources d'inspiration, comme souvent les personnages de romans. Il y a aussi un peu de Christine Angot, si vous voulez tout savoir. Il y a aussi de quelques autres. Mais c'est vrai que il y avait un côté Pascal Clerc, c'est le côté donneuse de leçons. C'est le personnage qui en même temps négocie son contrat suivant. Mais
vous l'avez cassé quoi donc.
Arthur, j'ai une réaction. Vous êtes en même temps, on vous a vu au théâtre souvent, on vous a vu comme metteur en scène, en tout cas comme c'est difficile parce qu'on sent que vous avez un tempérament quand même de si on vous laissait faire, vous prendriez souvent les choses directement en main. Vous avez d'ailleurs un talent pour ça. Est-ce que c'est difficile d'être dirigé et d'être avec une bande, de faire passer la meute comme avant les égos et la personnalité?
Ah non, je pense que c'est ce qu'il y a de plus agréable, c'est d'arriver à avoir assez confiance avec les gens avec qui on est pour se laisser juste vivre et déconner. Ça a été, même si on a répété une semaine et que c'était très technique, on déconnait, on passait nos journées à se marrer, à rigoler, ce qu'on peut pas faire quand on met en scène un spectacle, comme celui que je mets en scène aux Folies Bergères,
voilà.
qui s'appelle Magicien, tout est écrit, qui est un spectacle de magie, qui jouera du 19 octobre au 1er janvier, et le 14, 15 et 17 mai aux Folies Bergères.
Très bien, on ira vous voir. Merci, merci Elodie Habard, merci Arthur Jugnot. Donc le film sort aujourd'hui, le film de Laurent Dussault, avant qu'il ne soit trop tard, avec, je vous ai donné la liste, des excellents comédiens, toute une joyeuse bande. Et il y a la bande originale du film. On se retrouve avec Benoît Duterte dans un instant, La petite fille et la cigarette. C'est publié chez Fayard, la chronique tendance de Gilles Tessier. Voilà, c'est dans un instant. A tout de suite.
Hey j'ai le vertige! C'est où le bonus à la Matmute?
C'est sûr qu'avec son bonus en plus, elle crève le plafond, la Matmute.
Plus t'y restes, plus ça grimpe!
La Matmute, c'est le sommet du bonus.
Ah ouais!
La Matmute, elle assure.
Référendum, deuxième débat sur France Inter. La Constitution est-elle la bonne réponse aux besoins d'Europe? Invité de Respublica, François Bayrou, Jean-Pierre Chevènement.
Une émission dirigée par Pierre Lemarque avec la rédaction de France Inter et en collaboration avec le magazine L'Express. Respublica, c'est ce soir sur France Inter à 19h20.
France Inter, il est midi. Les informations sont présentées par Jacqueline Pétrose.
En Irak, 45 personnes au moins ont été tuées, une centaine ont été blessées dans un attentat à Erbil dans le nord du pays. Ce matin, un kamikaze s'est mêlé aux personnes qui attendaient devant un centre de recrutement de la police en centre-ville. Cet attentat est l'un des plus sanglants depuis le 30 janvier, date des élections générales. C'était hier soir la deuxième intervention télévisée de Jacques Chirac. Le cadre choisi cette fois sur France 2 était très classique. Le président était assis à son bureau face aux journalistes. Jacques Chirac a défendu le oui au référendum en affirmant que le traité n'était par définition ni de gauche ni de droite. Il sera ce que les États de l'Union en feront, a-t-il expliqué. Mais le président a fait valoir que cette constitution était essentiellement d'inspiration française et pour lui vraiment fille de 1789. Pour Jacques Chirac, dire non au traité et dire je suis heureux, ce n'est pas honnête. Quant à la victoire du non, Jacques Chirac ne sait pas si ce serait un échec pour lui, mais il a assuré que ce serait un échec pour la France. Du côté de l'UMP et de l'UDF, on salue la force de conviction du président. Le PS, plus réticent, constate que Jacques Chirac a expliqué hier soir sur l'Europe ce qu'il aurait dû expliquer depuis 10 ans. Du côté des partisans du non, Jean-Pierre Chevènement affirme que le président excelle à faire prendre aux Français des vessies pour des lanternes. Et Laurent Fabius considère que Jacques Chirac ment avec un aplomb incroyable. Vous aurez un invité à 13h, Fabrice Drouel.
Et ce sera Laurent Fabius, précisément. Et quand Jacques Chirac dit « on ne peut pas être européen et voter non », Laurent Fabius, d'autres, pour ça, mais Laurent Fabius, entre autres, a dû se sentir visé. Donc, nous essaierons de savoir ce qu'il en pense. Et s'il s'est senti visé?
Le président a hier soir également parlé du projet ITER, déclarant que la France et l'Europe étaient sur le point d'obtenir sa construction, ce que confirme ce matin la presse japonaise. Tokyo aurait renoncé au projet. Le premier réacteur expérimental à fusion thermonucléaire au monde devrait donc être construit dans le sud de la France, à Cadarache. Vous reviendrez sur ce sujet, Fabrice.
Avec Pierre Lelouch, l'émissaire du gouvernement pour ce dossier.
Depuis plus de deux ans, la France demande à l'Union européenne la baisse du taux de TVA pour la restauration. Aujourd'hui, la présidence de l'Union a annoncé qu'elle n'y était pas opposée. Mais il faut maintenant que l'unanimité des 25 membres de l'Union se fasse, ce qui n'est pas acquis selon certaines sources diplomatiques. La réunion aura lieu le 12 mai. En cas d'accord, la TVA passerait donc de 19,6 à 5,5. Les 12 sans-papiers évacués hier matin de la rue Turbigo par les pompiers sont revenus s'installer dans le local de la Bourse du Travail. En grève de la faim depuis 47 jours, ils demandent leur régularisation. Le 9e collectif de sans-papiers affirme n'avoir reçu aucune réponse à ces demandes, alors que deux des sans-papiers ont reçu des arrêtés de reconduite à la frontière. De son côté, le porte-parole de la préfecture de police affirme avoir donné des assurances sur l'examen des dossiers au cas par cas, mais a confirmé qu'il ne serait pas procédé à une régularisation en bloc. Pour la deuxième fois en trois semaines, un camion chargé de cigarettes a été attaqué dans la région de Reims. Ce matin, sur la Nationale 44, au sud de la ville, trois voitures ont bloqué le poids lourd. Des hommes cagoulés et armés ont brutalement éjecté le chauffeur qui a été blessé. L'un des agresseurs s'est alors installé au volant du camion. Outre ces attaques, deux vols à main armée ont eu lieu dans les entrepôts de Reims depuis le début de l'année. Bruno Gaccio, créateur des guignols de l'info sur Canal+, a déposé plainte avec constitution de partie civile après les déclarations de Pierre Martinet, un ancien agent de sécurité, qui dans son livre affirme l'avoir placé illégalement sur surveillance en 2002, ainsi que plusieurs autres employés de la société. À Canal+, le chef de la sécurité, Gilles Calin, mis en cause dans ce livre, a présenté sa démission pour, dit-il, pouvoir se défendre de ces accusations. Dans la seconde partie du 13-14, Fabrice, au programme musique, littérature avec le prix du Livre Inter.
Tout à fait, le romancier Éric Chevillard qui concourt donc pour le Livre Inter avec son livre Oreilles Rouges. Nous recevrons également Éric Lesage, un pianiste, pour une série de concerts au Festival de l'Épau.
Merci, donc rendez-vous à 13h avec Delphine Simon. Les chevaux les plus joués pour la course du Quintet Plus se déroulant sur l'hippodrome de Lyon-Paris. 13, 8, 10, 14, 9, 11, 3 et 5.
France Inter présente Mighty Raringer, Robert Plant. Retrouvez Robert Plant et ses nouveaux titres dans le programme musical de France Inter. Et en live au Studio 104 le 9 juin pour un concert exceptionnel retransmis en direct. Mighty Raringer, Robert Plant, avec France Inter.
France Inter, partenaire de Paroles et Musique de Saint-Étienne du 8 au 14 mai. 7 jours, une quarantaine d'artistes avec Brigitte Fontaine, Paris Combo, Mathieu Bogart, Pauline Croze, Mano Solo, Swad Massy, Loïc Lantoine. Et retrouvez en direct du Magic Mirror le 7 mai à 17h l'émission Système Disque de Valy, le 14e festival de paroles et musique de Saint-Étienne avec France Inter et sur franceinter.com.
Midi, 5 minutes passées de quelques secondes, vous retrouvez Stéphane Bern pour la suite du Fou du Roi.
Le Fou du Roi.
Le Fou du Roi est de retour et avec nous Benoît Dutertre qui publie La Petite Fille et la Cigarette. Voilà son nouveau roman chez Fayard. Avec nous Isabelle Giordano, Bruno Mazur.
Est-ce que je peux dire...
François Reynard a disparu, mais...
Denis, notre assistant, est en train de nous servir du café, ce qui est gentil. Oui. Et il me glisse à l'oreille. Reynard est pas là, il est en train de faire la grosse commission.
Voilà
dans quel milieu on travaille.
Voilà, les blagues.
Excusez-moi, j'étais en train de rêvasser avec Julien Bert, que je trouve, je disais complètement formidable son interprétation de la chanson.
On va faire un disque.
Voilà.
Oui. Mais ça, on l'avait déjà dit aux auditeurs.
Oui, d'accord, mais je me disais, alors, ça fait plaisir, il faut rassurer les artistes.
Vous avez un gage, Benoît. D'abord, je fais saluer Guy Carlier et Gilles Tessier pour sa correspondance. Je demande, Benoît, un gage. Vous connaissez, vous avez une passion commune avec François Reynard.
Oui.
C'est l'opérette.
L'opérette, exactement.
Donc, nous avons un excellent pianiste qui est Franck Gilibert, qu'on peut saluer. Je vous demande, cher Benoît, d'obliger François Reynard à nous interpréter un air, un air
quelque
que vous
chose
souhaitez.
Dans son répertoire. Dans
oui, oui. À deux voix, si vous
on sait que l'appel de Cadix, alors.
Oui, faites-nous un duo.
Faites un duo. Mais c'est un gage.
Vous êtes
d'accord, cher public. Voilà. C'est parti.
La
belle de Cadiz a des yeux de velours. Aïe aïe aïe, chique chique chique, aïe aïe. La belle de Cadiz n'a pas connu l'amour. Chique chique chique, aïe aïe aïe, chique chique chique, aïe. Les caballeros sont là, comme dans la posada, on entend qu'elle chante. Mais pour ces jolis yeux noirs, les hidalgos le soir viennent tenter leur chance. Et malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadiz ne veut pas d'un amant. Les cœurs, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ne veut pas d'un amant.
Et voilà, bravo. Alors, non. François Reynard.
Je félicite François, en même temps, il sait que moi j'aurais pas choisi Francis Lopez, parce
non,
que,
non plus.
Effectivement, moi j'ai tendance à penser que Francis Lopez, avec cette avalanche de clichés,
Franck et moi on sait faire que celle-là, on va
ça, ça, c'est trop viril,
c'est une œuvre pour mineurs polonais, ça sent la Silésie, enfin tu vois.
Ça sent la sueur. Alors, non,
le jour où France 2 fera un film sur la vie de Luis Mariano,
Francis Lopez a un peu contribué à donner cette image ringarde, cliché de l'opérette.
De Francis Lopez et la tombe de Francis Lopez. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un était du meurtre, c'est horreur.
Ouais.
À côté, la tombe de Dalida, c'est sobre, c'est du Bergman. À côté.
Et au contraire, moi, tout ce que j'ai essayé de faire dans ce domaine, c'est plutôt d'essayer de montrer que l'opérette, c'est un genre beaucoup plus insolent, beaucoup plus corrosif, beaucoup moins, justement, lieu commun que Francis Lopez. Donc c'est Offenbach, c'est Maurice Chivin.
Vous avez écrit le livret de Vive à l'opéra comique.
Vive à l'opéra comique aussi.
Et c'est vraiment génial, je suis allé le voir à l'opéra comique. C'était formidable.
Cela dit, Lopez, que j'aime pas beaucoup parce que je pense qu'il a un peu tuer l'opérette en faisant un divertissement à trop grand spectacle. Cela dit, il y a quand même une efficacité des mélodies qui est absolument incroyable. Il y a d'ailleurs un projet de reprendre le chanteur de Mexico à Paris, et je suis sûr que ça va marcher très très bien.
Bon, on a un coup, alors, sous le soleil. Alors, j'ai un
opéra. Je chante pas, moi je joue du piano seulement.
Isabelle, vous chantez?
Non, mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit François. Effectivement, je voudrais, il le fera bien mieux que moi, je voudrais que Benoît incite nos auditeurs à aller voir Ta bouche.
Alors et ça, c'est un spectacle formidable. Parce que ça montre vraiment le côté insolent, moqueur, très libertin, très osé de l'opérette.
Et c'est très, très bien écrit. Maurice Yvain, c'est un musicien
très bon compositeur qui a écrit des chansons célèbres comme Quand on se promène au bord de l'eau, Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, etc. Il a écrit des chansons célèbres, mais on ne sait pas qu'elles viennent toutes d'opérettes, ces chansons, et que ce sont des très, très bonnes opérettes, vraiment, mais très osées par rapport à ce qu'on ferait aujourd'hui, puisque tout le monde ne pense qu'à se tromper pour des histoires d'argent, d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas du tout moral.
Il y a des chansons connues qui viennent de Ta bouche.
Alors, de Ta bouche, elles sont peut-être un petit peu moins connues que celles de ces autres opérettes, mais c'est une œuvre qui a été aussi un peu remise au goût du jour, si on peut dire, par le film d'Alain René, Pas sur la bouche.
Qui
est la suite de Ta bouche, c'est la trilogie buccale de Maurice Yvain. Parce qu'il y a eu encore Bouche à bouche après.
Non, il est incollable. Alors, c'est bon, vous êtes
les buccale. On va voir le film dentaire après.
J'en profite parce que j'ai promis de le faire. Notre ami Stéphane Guillon sera le jeudi, c'est demain et vendredi 6 mai, au casino du Lion Vert à Lyon. C'est à 20h30. Voilà, j'ai promis de le dire. Voilà, en bon camarade, je le fais. Et donc, pour rebondir sur la télé-réalité, on en parle beaucoup. Nous avons appelé après la chronique brillante de Guy Carlier hier sur la ferme de Visan. Nous sommes en direct, en ligne, avec le maire de Visan, Monsieur Gérard Sautel. Monsieur le maire, j'ai l'impression d'être Pierre Bonte. Bonjour, Monsieur le maire.
Bonjour.
Bonjour, Monsieur le maire. Alors, il y a quelle agitation. De nouveau, vous étiez tranquille pendant un an. Là, de nouveau, vous êtes...
Sur les feux de la rampe.
Oui, ça vous fait plaisir, vous?
Oui, ça nous fait plaisir, ça donne notoriété.
On voit que vous êtes enthousiaste.
Alors, pour vous, est-ce que c'est une bonne affaire pour les habitants de Visan?
C'est une bonne affaire pour les habitants de Visan de la région. Hein.
Oui.
De la région. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans Visan, là. Il m'a dit, hier soir, j'étais à Boucher, vous voyez, c'était un village à 4 km de Visan. Ils étaient 40 à table dans la ferme de télé-réalité. Des gens qui y travaillent, des machins comme ça.
Ah oui, donc il y a tous ceux qui travaillent, qui filment, etc. Tous les cadreurs, les éclairagistes, les...
Ils étaient jusqu'à Boucher, vous dites? Ils étaient où, à Boucher?
À Boucher, et ils mangeaient, ce soir.
Ah oui. Ah oui. Donc, et dites donc, à Saint-Ville-sur-Vaucluse, il n'y en avait pas non plus, là-bas?
Pardon?
Et ils vont jusqu'où?
Ils vont dans toute la région,
ouais.
Hein, je veux dire, ils vont à Vaison, ils vont à à Morléac, ils vont...
Non, à Morléac. Alors, il y en avait à Morléac, Stéphane.
Oui, bah, alors, moi, je ne moque pas parce que ça m'intéresse. C'est-à-dire, de considérer... Je n'ai pas regardé l'affaire. Enfin, je ne regarde pas du tout ce genre de programme. En revanche, je me rends compte que finalement, on s'intéresse à cette commune de Visan. Il y a combien d'habitants chez vous, monsieur Sautel?
1995.
Ah, c'est très précis, oui.
Plus 2 en comptant Régine.
Comme dans la baronne, tout plus 3.
Et alors, vous les avez, par exemple, vous les avez accueillis. L'autre jour, Guy Carlier nous a raconté que vous connaissiez, Régine, Marianne Brandstetter.
J'en connaissais quelques-unes par la télévision.
Par la télévision, parce que... Et par rapport aux bêtes qui dans les... on parle des vaches, là, avec notre invité... ça vous ont surpris de les voir en vrai? Henri Lecomte, vous attendiez à le voir comme ça?
Oui, oui.
Oui,
oui.
On lui fera pas dire des horreurs sur les... vous avez reconnu Régine?
Oui, oui, oui.
Elle a changé.
Elle a changé, bon, mais comme nous, elle a changé.
Oui, on change tous, oui.
Mais en même temps, il y a des manifs, hein, il y a la Confédération Paysanne qui est venue manifester. Vous n'avez pas peur qu'il y ait un peu de bordel autour de cette ferme?
Mais c'est des gens qui ne connaissent pas l'agriculture. Ils sont contre la télé-réalité, mais ils ne connaissent pas l'agriculture. Moi, ils n'ont jamais été donné une poule.
Ben ouais.
Les poules, c'est pas ce qui manque dans la ferme. Parce que... je voudrais pas.
Et les cochons non plus.
mais en même temps, alors, moi je suis allé sur votre site, monsieur Sautel, donc on parle de Visan, un paysage de rêve, un village de rêve, des vacances de rêve. Est-ce que ça a dopé le tourisme et les vacances? Est-ce que les vacanciers, par exemple, pendant l'été, une fois que la ferme est terminée, est-ce qu'il y a des touristes qui l'été viennent pour s'installer à Visan?
Ils viennent pour s'installer, ils cherchent des maisons à acheter, des marchés pas mal.
La terre a augmenté, le prix de la terre?
Le prix de la terre n'a pas augmenté parce que on est en révision du PLU et donc on ne peut pas construire n'importe où. Hein.
Oui. Mais dites-moi, monsieur le maire, vous savez ce que vous devriez faire? Comme il y a le fou du roi, pas le fou du roi, le puits du... Depuis du flou. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Ou le Futuroscope à Poitiers. Vous devriez, pendant l'année, faire visiter la ferme et alors accueillir les gens qui pourraient vivre dans la ferme comme s'ils faisaient de la télé. Et alors vous leur donneriez les cassettes à la fin.
Mais tout est démonté, la ferme, c'est pas du tout.
Non, mais c'est à lui d'investir un peu et de recréer.
De recréer une ferme.
C'est une bonne idée. Hein, je n'y avais pas pensé, vous voyez.
Bah oui.
On vous enverra Guy Carlier en guide pour accueillir.
Non, mais tant qu'à faire, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des commerces qui vendent des fermes dans des boules avec de la neige. Non, mais vous allez avoir ça. Est-ce qu'il y a des produits dérivés vendus dans les commerces du coin?
Des produits...
Des photos, des cartes postales. Est-ce qu'il y a par exemple des cartes postales dédicacées de Christophe de Chavannes, de Patrice Carmouche?
Des t-shirts?
Non.
Pas encore?
Pas encore.
Il y a les 10
d'origine. Vous allez y avoir droit, c'est sûr.
Ouais, ça, c'est sûr.
Bon.
Monsieur...
Donc c'est une bonne affaire.
Est-ce que vous avez prévenu vos administrés? Parce que vous avez quand même un devoir il vous faut, en tant que maire, prendre soin de vos administrés. Et vous pouvez très bien, d'un moment à l'autre... entendre Philippe Risoli chanter Cuitas les patatas. Et donc, est-ce que la population, vous avez prévu des solutions de repli ou Régine qui va vous chanter quand j'étais pétrifié ou des choses comme ça?
Non, mais elle l'est toujours.
Parce qu'il y a une cellule d'aide psychologique.
Voilà.
Bon, enfin, écoutez, bonne chance alors.
Bonne chance, et puis il y a toujours des arrêts d'expulsion qui peuvent être signés si jamais ils vous embêtent trop.
Cela dit, ça a l'air d'être très joli. Hein.
C'est très joli.
Les remparts du 14e, ça a l'air d'être un très joli.
Grâce à vous, monsieur Sautel, on a découvert Visan. C'est dans le comte avenaissin. Ouais. C'est une très jolie.
C'est dans l'enclave des Papes.
Il y a du vin.
C'est une enclave unique en France. C'est l'enclave des Papes, 4 communes.
Et c'est gorgé de soleil et d'autres...
Gorgé de soleil.
Voilà. Eh bien écoutez, on va vous laisser déjeuner, parce que je crois qu'on vous a dérangé.
Eh bien dites donc, l'église renferme une polychrome de la Vierge à l'enfant, monsieur le maire. Et vous voyez, il y a quand même une Vierge dans le pays.
Bon, monsieur le maire de Visan, merci d'avoir été en ligne avec nous. Et bon courage pour ces quelques semaines qui vont s'annoncer chaudes à Visan avec la ferme célébrité. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, monsieur le maire.
Ah là là. Bon. Ça, évidemment, ça, c'est une perche qu'on vous tend, Benoît, parce que vous parlez justement de
la télé-réalité
dans votre livre.
Mais c'est toujours le même principe. Il s'agit de partir du réel qui est déjà assez fou, parce que la télé-réalité, on assiste quand même à des choses assez hallucinantes, mais de le pousser un petit peu plus loin. Et effectivement, dans le livre, j'ai imaginé une chose assez atroce, c'est-à-dire la Martyr Academy. C'est-à-dire, c'est un groupe terroriste, en fait, qui a enlevé des otages, mais au lieu de simplement les exécuter, il les oblige à chanter des chansons, à faire des numéros de théâtre, etc., devant des caméras. Et les internautes du monde entier votent pour les uns ou pour les autres. Et effectivement, à la fin de chaque mois, celui qui a eu le moins de points est exécuté. Donc, c'est une nouvelle forme de jeu de télé-réalité qui n'est pas si loin que ça de la réalité. Hein, on peut penser au snuff movie, on dit ça, sur Internet et toutes ces choses-là. On n'en est pas tellement loin, mais c'était le jeu du livre, toujours. C'était de montrer qu'entre le monde...
Ça n'existe pas. Hein.
Non, non.
c'est des films. Ce ne sont pas des films vrais.
Et donc c'est pousser un peu la
Mais le jeu, c'est de montrer, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'est de montrer qu'au fond, entre le monde d'Orwell et celui de son époque, il y avait quand même un assez grand décalage. Moi, j'ai envie de dire qu'entre le monde d'aujourd'hui et une folie un tout petit peu exagérée, c'est très très proche. Il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup pour qu'on bascule du réel dans quelque chose de complètement fou. C'est un peu le jeu de ce livre.
Alors, on va revenir dans le poétique avec Julien Bert et ses musiciens, Philippe Arthur, Nicolas et Jean-Philippe, pour une deuxième chanson extraite de son dernier album, Drôle de situation. Julien Bert. Voilà, on est en direct. Installez-vous.
Merci de venir tous.
Je suis dans une drôle de situation. Quarante de fièvre et de réaction. 40 degrés, tu sais, si tu plonges dans l'air, une voie de garage. Avec mon empire, si vite il se tire, sans un sujet qui l'inspire. Avec mon nuage, ma bulle, mon visage, tu m'as rié du passage. C'est pas une grande situation. 40 degrés, c'est pas bon. C'est presque final comme solution. Presque pas normal au fond. Avec mes médailles, en top ma ferraille, tu m'as laissé sur la paille. Cette rancœur, c'est dur, elle fait peur. Tu m'as laissé sans une fleur. Je t'ai suivi, petite horloge. À ton profil, j'accrochais. Voilà soudain qu'on me déloge. De ton cou où je dormais. De situation à l'endroit même où se trame cette menace sur ma nation, mon armée derrière qui rame avec ta machine de guerre qui dessine le prétendant qui s'affirme avec ta faucille. Et ton marteau en vrille, tu m'as repris ce qui brille. Moi je t'ai suivi, petite horloge. À ton profil j'accrochais. Voilà soudain qu'on me déloge. De ton cou où je dormais. Thank you. chercher. Voilà soudain qu'on me déloge de ton cou où je dormais. Dans une drôle de situation, c'est pas une drôle de situation. Je suis dans une drôle de situation.
Merci beaucoup. Merci Julien Bert et ses musiciens Philippe Arthur, Nicolas et Jean-Philippe. Je vous rappelle une dernière fois le titre de son album Notre-Dame des Limites, et il sera en concert le 30 mai, le 15 et le 28 juin au Triptyque, et c'est à Paris. Nous sommes toujours avec Benoît Duterte, la petite fille et la cigarette.
Les riffs James Browniens à la guitare, moi j'aime ça. Alors puisque tout, vous voyez, j'aime pas seulement l'opéra.
Est-ce que vous aimez aussi les nouvelles tendances, un peu tout ce qui est extrêmement moderne?
Les tendances de salon.
Oui, et qu'on trouve exclusivement chez Colette en général. Et je vous demande d'accueillir Gilles Tessier pour sa chronique tendance.
Bonjour.
Je souffre parce que j'ai vécu une semaine épouvantable. Je me suis un peu sacrifié pour cette chronique cette semaine. On est en pleine massage attitude. Vous savez que tout le monde va se faire masser, et tout le monde.
Non, la baronne Brunschetter et Guy, on en parlait ce matin.
Ah, c'est Django. Si, elle s'est fait masser par Django Edwards.
Ah oui, comment?
Elle s'est allongée dans la cuisine, c'est vrai. Hein, et l'autre lui a marché dessus. Mais il paraît que c'est très bon
pour les os.
Très très bon.
Donc, c'est un peu thaïlandais alors dans le genre.
C'est un peu...
Si on vous marche dessus, c'est un peu californien ou thaïlandais.
Ouais, si c'est l'inverse, si c'est moi qui vous marche dessus, ça fait un peu... c'est un peu japonais.
C'est le massage sumo.
Ouais.
Alors, vous avez donc testé les massages.
Et alors, plein de nouvelles tendances dans les massages.
Oui.
J'ai été épaté. Mais alors franchement, par exemple, connaissiez-vous la pierre de lave?
Évidemment.
Et le massage à la pierre de lave,
évidemment.
Bruno?
Quoi, évidemment?
Non, moi je connais pas.
Ah, merci Isabelle.
La pierre de lave, ça sert, on peut
fait des grillades sans matière grasse.
Voilà, dans les cuisines,
oui,
j'ai vu des
petites
de
pierrades.
Oui.
Hein, on invite ses amis, on fait une pierrade, c'est festif.
Ça c'est pareil, après c'est le placard du haut.
À côté de la yaourtière.
Et la sorbetière aussi.
Et là,
des cadeaux débiles.
Et là je suis allé chez Origins, une marque assez tendance en matière de produits de soins, de cosméto. C'est dans le 6e arrondissement, donc vous voyez, c'est assez, pour nos amis de province, c'est un arrondissement assez bobo dans Paris. Et on m'y a fait un massage aux pierres chaudes. Alors c'est du basalte, les pierres sont très très belles, hein. Elles sont noires, c'est des galets en fait, avec des formes rondes. Allez-y Benoît, tassez-moi ça.
Oh, oui,
c'est de la pierre ça, hein, magnifique. Et alors, c'est de la pierre volcanique, c'est-à-dire que ça garde la chaleur.
Ouais.
La charmante femme qui vous masse, qui était très jolie, soit dit en passant, vraiment.
Ça garde la chaleur du volcan, du départ.
Non.
On la réchauffe. La chaleur de Pompéi sur le truc.
On la réchauffe. Oui, alors, on la met dans des bassines d'eau bouillante. On met ses galets dans des bassines d'eau bouillante. Et alors, première sensation...
Mais elle se brûle les doigts, comment elle les...
Eh ben non, c'est une fille, et la fille supporte la chaleur en général. Vous avez remarqué ça?
Non mais attendez, c'est
quoi? Mais si, on a tous...
On dirait qu'il parle d'un animal.
Isabelle, on connaît
ça.
On a tous vu nos mamans sortir du four des plats, mais incroyablement brûlants sans se brûler. Et nous, on n'y arrive pas.
Ce n'est pas la main de ta mère, c'était un gant.
Oui.
Tu crois? Voire une manique. Une manique.
Vous avez été câliné au gant de crin, vous.
Douce. Voilà. Et donc, on met ça dans. Les pierres sont chaudes, et ensuite. En fonction des chakras, qui sont les points d'énergie dans votre corps.
Les points d'ouverture, les chakras,
c'est ce qui s'ouvre. Ouais. Voilà. Donc, alors, pas tous les points d'ouverture, finalement, mais quelques-uns.
Non, vous met... L'ouverture d'énergie, vous avez des points...
Oui.
Il y a peut-être de l'énergie, mais enfin bon...
Bon, alors, le plus connu étant le plexus solaire, vous voyez, là, c'est là, au cœur de la poitrine. On vous met ces points, ça les ouvre encore plus, ça vous débloque, et du coup, vous êtes parfaitement détendu. Au préalable, on
et
vous aura...
Et brûlé au quatrième degré, c'est ça?
Non, c'est très agréable, la chaleur se diffuse, et à la fin, le problème, c'est qu'on a du mal à quitter la table de massage, on est vraiment...
Et quand l'ouverture est bien distendue, qu'est-ce qu'on fait?
Figure-toi qu'on boit.
Dernier tango à Paris.
Figure-toi qu'on boit, parce que la chaleur de la pierre attire le sang vers l'extérieur, vers la surface de la peau.
Vers le derme, donc.
Vers le derme, donc.
On boit quoi? On boit du thé?
Alors, on boit du thé blanc, voilà, qui a des vertus.
Qu'est-ce que c'est du thé blanc?
antioxydante.
C'est quoi et le thé blanc?
Votre massage dure combien de temps?
Alors, le massage dure 1 heure. C'est 75 euros l'heure.
Bon
oui, mais attendez, vous affolez pas, Stéphane.
C'est remboursé par la sécurité.
Eh ben, c'est mieux de... croyez pas si bien dire. Si vous achetez pour 75 euros de produits de cosmétiques chez Origins, le massage ne vous coûte rien.
D'accord.
C'est incroyable. Mais,
est-ce que si...
J'aime beaucoup les calculs, c'est
Gilles,
les calculs.
C'est Marie-Chantal,
Gilles Tessier.
Oui, Guy Carly.
Est-ce qu'il n'est pas préférable de se faire masser directement par la jolie dame?
Alors, la jolie dame, au départ, prend contact avec ton corps. Et pour prendre contact avec ton corps, elle appose ses mains nues sur ton corps et elle t'enduit d'une huile essentielle.
Elle te moins.
D'huile essentielle au basilic. Et c'est sublime.
Et là, tu sens que les enduits commencent.
Et alors après,
une vraie masseuse, la main ne quitte jamais ton corps. Jamais.
Oui, ça c'est... Bravo Bruno, voilà un spécialiste.
Ah, vous êtes spécialiste des
massages.
J'adore ça.
Massage.
Oui, vous y allez souvent.
C'est agréable, les massages.
C'est formidable.
Ah, mais écoutez...
Quand c'est bien fait,
tu fais les massages aussi?
C'est extraordinaire. Oui, mais c'est pour ça que je connais vraiment les pierres chaudes. C'est vraiment très, très détendant. C'est très agréable.
Alors, au tampon, Bruno, est-ce que tu connais le massage au tampon?
Ah non,
bon appétit.
Je crains le pire.
Des perversions.
Mais non. Alors, le massage au tampon, je vous explique. On prend des herbes.
Tout le monde a des images atroces.
Mais non.
Des herbes, mais quel genre d'herbes?
On pense à Camilla. Ah.
Des herbes aromatiques, Stéphane, qu'on met dans un torchon, enfin un tissu, qu'on noue. Et ensuite, on plonge ce torchon avec ces herbes dans effectivement un produit chaud. L'huile, enfin les herbes donc libèrent leurs huiles essentielles à la chaleur
et
leurs effluves et leurs bienfaits. Et ensuite, on vous tamponne le corps avec donc ces tampons
et de linge, les petites lingettes.
Absolument, tu l'as fait.
Ça fait comme des petits sachets de thé, j'imagine.
Oui, absolument, un peu plus gros que des sachets de thé. C'est pour la grosse théière.
Qu'on puisse tamponner.
Voilà, et c'est sublime aussi. Ça, je l'ai fait chez Bleu comme Bleu, qui est un très bel endroit.
Ah oui, je connais cet endroit-là.
Tu sais, c'est tenu par la femme de Jacques Séguéla.
Oui, c'est Avenue Hoche.
Oui,
Carly, il n'est plus comme avant. Hein. Avant, il parlait de sa banlieue, etc.
Ah oui, non, mais maintenant, c'est un vrai logo.
4 ans de chronique tendance.
On va pas faire de la pub, mais je suis allé dans cet endroit, qui est un endroit où on
peut se couper les cheveux.
Oui. Ça fait pédicure et on mange.
Ah oui. Oui, c'est un tout en un. Ça, c'est fabuleux. Elle a créé, Madame Séguéla, le tout en un, c'est-à-dire que vous ne perdez pas de temps, Stéphane, vous qui êtes un homme pressé, tout le monde le sait, vous pouvez aller là-bas, vous faire couper les cheveux, manger, vous faire masser, tout en un.
Moi, je trouve que manger en se faisant masser, ça ne peut pas être bon pour la digestion.
Non, mais et alors...
Tant pis, masser en regardant ton voisin se faire masser... manger en regardant ton voisin se faire masser les pieds, c'est le pugnant.
Et en plus, tu peux te faire coiffer les cheveux par Zachary, le coiffeur des cuirs, parce qu'il est là-bas. Ah oui. Bah oui, tu veux que je prenne rendez-vous avec
l'émission de télé-réalité dans laquelle Gilles Tessier a sévi.
Je faisais le coach, moi.
De coach psychologique, c'est vous dire. Alors,
et alors
coach psychologique, déjà, ça, rien que ça.
Bah oui. Vous sentez la profondeur psychologique du coach.
Allez, et ensuite.
Je vais vous faire des pas en route parce qu'il faut y aller.
Alors, le massage express. Ça, c'est la nouvelle grande tendance aussi parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller passer 1 heure ou 2 dans un institut comme chez Origins.
Il y a des feignasses comme vous. Hein.
Sinon, on n'a même plus le temps pour faire le shopping après. C'est absurde.
Et alors, chez Kyria, c'est boulevard Saint-Germain, 108 boulevard Saint-Germain, dans le 6e. Hein, toujours.
Bah oui, mais c'est des quartiers un peu racailles quand même. Habillez-vous pauvre pour pas vous faire agresser.
Si j'arrive de Poitiers, comment je fais en arrivant de Poitiers?
Alors, vous prenez à la porte d'Orléans, vous voyez.
Il n'y en a pas à Poitiers.
Alors, si, il y a un site internet où on vous indique les gens...
on se fait masser sur son site.
Non. Où on vous indique...
On vous demande à Poitiers.
C'est un très bel endroit.
On vous demande une adresse à Poitiers.
C'est un très bel endroit. Alors,
il y a Germaine qui est masseuse. C'est le meilleur chocolatier qu'on a eu au téléphone un jour.
Oui.
Voilà.
Mais il y avait Germaine Fouchard qui était masseuse à Poitiers, qu'on a bien connue.
Et donc à Poitiers, vous appelez de Poitiers, imaginons, vous voulez vous faire masser express. Eh bien, sur le Kyria.com, on vous dit, là où il y a dans votre région des masseurs du même type que chez Kyria, qui vous masseront. Et alors j'ai amené la chaise, Guy, à vous l'honneur. C'est
non,
la
on
chaise.
A cassé là.
Ah bah si, alors Benoît.
La chaise de massage.
Benoît, voilà.
Mais
la
pourquoi
chaise
vous avez
de
amené
massage.
Une chaise percée?
Eh bien, alors, la chaise est percée, effectivement, Stéphane, au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'on s'assoit en avant sur cette chaise et non pas en arrière.
Je passe. Alors, Bruno, il accède.
Il y a un... Bruno, vas-y mon nono. Il y a un
emplacement.
Il y a un emplacement sur pour les genoux. Et alors là, c'est pas cher du tout. Voilà. Viens mon nono. Et alors, c'est pas cher du tout parce que on vous propose ce massage à 1 euro la minute. C'est-à-dire qu'en fonction du temps que vous avez disponible, vous pouvez vous faire un massage de 5, de 10, de 15, de 20 minutes et c'est 1 euro
la
minute.
Ça fait donc 60 euros l'heure.
Non, oui, mais en général, on
peut. Ah bah oui, oui, bah attendez. Oui,
moi je sais, en train de c'est Bruno la gilet.
Il reste
Bruno qui est en train de se punir. Allez-y.
Non mais.
Bruno est coincé.
Stéphane, c'est...
il a la tête dans le trou.
C'est... Non, mais... dans le trou pour répondre à votre question, c'est 10 minutes minimum. Donc d'accord. Ça coûte 10 euros en gros, d'accord. Quoi. Pour bon, un massage, c'est vraiment rien.
Bruno Mazur.
Alors, ça va mon nono?
Ça va.
Oui. Alors... Et alors, Bruno a la tête dans le trou de la chaise. Oui. Et là, vous arrivez entre deux courses. Par exemple, vous êtes en plein shopping. Et oh, je suis un peu stressé, ça m'a un peu fatigué. C'est fatigant le shopping, hein, on est tous d'accord, hein, Benoît.
Oui.
Mais, et donc là, eh bien, vous dites, je vais me faire, c'est vous rentrez au 108 boulevard Saint-Germain, et là, on vous fait votre petit massage.
Très bien.
Une minute,
avec
deux minutes.
Bruno qui est assis.
Eh ben, Bruno, voilà. Donc, la nouvelle, c'est que je ne fais pas masser.
D'accord. Ah bon, je pas merci Gilles. Bon, alors c'est tout, on a terminé.
C'était la chronique tendance.
Gilles Tessier, merci. On écoute Amadou et Mariam, Sénégal Fast Food, et ils sont le 17 mai à La Cigale.
Demain je serai parti, la gare Dakar Bamako, Mopti, y'a pas de problème, tout va bien, aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, Amoul, Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il, au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il.
Sénégal Fast Food, et ils sont, je vous l'ai dit, à La Cigale, C'est un concert France Inter le 17 mai prochain. Voilà, nous, merci Benoît Duteurtre.
Bah, écoutez, merci à vous.
La petite fille et la cigarette, c'est publié chez Fayard. Juste un mot, vous avez d'autres activités, vous continuez à écrire donc un certain nombre de... C'est pas moi.
Moi, je sais pas qui c'est. C'est
important, personne. Vous continuez donc de faire des chroniques musicales.
Oui, oui.
Et puis sûr, sur France Musique, on vous retrouve samedi.
Tous les samedis sur France Musique. Et puis non, je suis très heureux, le livre sort aujourd'hui. Ça semble de bon augure grâce à vous. Merci. Bah,
pas seulement grâce à nous, merci de nous avoir... fait partager cet enthousiasme pour, en tout cas pour les cigarettes et pour les bouffies.
Non, la petite fille, c'est la méchante.
Non, c'est la méchante.
La cigarette, c'est la gentille.
Mais en tout cas, comme le disait Isabelle, c'est très insolent et c'est surtout politiquement incorrect, ouais. Ce qui fait plutôt du bien par les temps qui courent. Voilà, on se retrouve demain avec Patrick de Carolis. L'émission est déjà enregistrée, ainsi que celle de vendredi avec Philippe Bouvard. Et je vous retrouve en direct lundi matin avec Roman Boringer. Merci à tous et à demain. Non, j'ai encore 30 secondes quand même. Guy, vous m'avez dit que vous partez, vous, demain. Il faut rendez-vous donc pour votre vol Air France qui part pour Biarritz. Non, parce que les gens me disent on aimerait lui amener des gâteaux, des fleurs, Vous partez où d'abord?
Surtout à Biarritz, je pense que c'est... Non, mais dans le micro. Les gens arrivent en pirogue avec des petites filles qui sont des coups de...
Alors, dans le micro, parce que sinon on ne va pas vous entendre vous visiter.
Je m'en vais visiter le Pays Basque.
Très bien.
Voilà, donc effectivement, je pars demain matin.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite bon vent. Bon, je
vous raconterai.
Ah oui, regardez la télé quand même, on en a besoin. Donc, merci à tous et à demain. Au revoir.